Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, le calendrier liturgique veut que nous célébrions la fête de l'exaltation de la Sainte Croix un dimanche. Donc, la dernière fois, c'était il y a 11 ans. Donc, vous voyez que là aussi, ceux qui prétendent liturgiquement que les modifications effectuées en 1960 sont un scandale, quand on regarde les fêtes qui vont être empêchées à cause d'un dimanche, cela va arriver en moyenne tous les 7 ans, en réalité. Donc parfois c'est un espace de 11 ans, la plupart du temps c'est 6 ans et parfois 5 ans. Voilà, pour être tout à fait précis. Pour revenir à cette fête, eh bien c'est une fête extrêmement ancienne qui remonte à la consécration des deux basiliques de Jérusalem sur le Golgotha et la basilique de la Résurrection, qui aujourd'hui font un même ensemble architectural ou assez particulier. Et cela a eu lieu le 14 septembre 335. Et donc, cette dédicace de ces basiliques, sur le Golgotha, il y avait malheureusement un temple de Vénus qui avait été construit, donc on l'a rasé pour construire ces églises. À cette occasion, on montrait solennellement la relique de la vraie croix, donc des morceaux extrêmement importants à cette époque, découverts peu de temps auparavant, en 326, par l'impératrice Sainte Hélène. Et exaltation de la Sainte Croix, cette vénération, cette ostension solennelle de la Sainte Croix vient à supplanter cette fête de la dédicace. Et donc à partir de 347, on a une fête à Jérusalem de l'exaltation de la Sainte Croix. Donc vous voyez que au niveau du calendrier liturgique, c'est une fête qui est extrêmement ancienne, puisque on est à peine sorti des persécutions, des catacombes. Le calendrier liturgique, notamment le calendrier sanctoral, donc des fêtes des saints et de Notre Seigneur et de la Sainte Vierge au cours de l'année, est vraiment assez basique à cette époque-là. Et il va commencer à se développer, mais de façon locale, ici à Jérusalem. Bien sûr, cette fête va s'étendre en Syrie, puis à Constantinople, notamment avec le déplacement des reliques. Aujourd'hui, en règle générale, on relie cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix à ce qui s'est passé à la fin du VIe siècle. Vous voyez qu'on est déjà plus de 300 ans après les faits, pour remettre les choses en perspective, parce que pour nous ça paraît loin, et dans le passé on dit bon l'an 300, l'an 700, c'est pas si c'est proche. Quand même plus de 300 ans, que les reliques sont restées tranquillement. Malheureusement, le roi de Perse, Khosroès II, va attaquer Jérusalem et s'emparer de la sainte relique. Cette sainte relique ne sera que reprise en 628. Donc, pour le coup, on date environ de 570, cette attaque de Khosroès II. Donc là encore, ça fait près de 60 ans que la sainte relique a été en exil, si on peut dire, chez les Perses. L'empereur Héraclius la reprend en 628. C'était le 3 mai. Et cela a donné plus tard, donc, la fête qu'on va appeler l'invention de la Sainte Croix. Donc, vous voyez que c'est un peu anachronique d'appeler cette fête du 3 mai, qui a été supprimée en 1960, à cause du doublon fête de l'invention de la Sainte Croix, alors que, en réalité, c'était plutôt la fête d'Héraclius qui ramène la Sainte Croix glorieusement à Jérusalem le 3 mai. D'ailleurs, à cette époque, certainement qu'il n'y a pas de fête liturgique qui va s'instaurer. Ça ne viendra que plus tard. En 633, la Sainte Relique est transférée donc principalement à Constantinople. Vous savez, il y a les invasions musulmanes, n'est-ce pas ? L'islam qui va s'emparer de ces lieux saints. Et donc la relique de la Sainte Croix est transportée à Jérusalem. La fête va s'instaurer progressivement, sauf que à Rome, le 14 septembre, on fête déjà les saints Corneille et Cyprien, le pape Corneille et Saint Cyprien, un glorieux évêque, martyr, qui a écrit un traité que je vous recommande fortement sur le bien de la patience, qui est à lire et à relire. C'est un petit opuscule et à méditer, spécialement aujourd'hui, où nous voyons que trop l'impatience des chrétiens. On fêtait le 14 septembre Saint Corneille et Cyprien. Contrairement à ce que prétendent certains sites internet, d'ailleurs, ce n'est pas pour cette raison que la fête de la Sainte Croix a été mise au 3 mai. Mais effectivement, la fête de la Sainte Croix était mise au 3 mai, puis en même temps, on avait une fête double de la Sainte Croix et de Saint Corneille et Cyprien. C'est-à-dire qu'à cette époque, fête double, ça veut dire qu'on avait une double fête. On mélangeait les deux offices de Saint Corneille et Cyprien et de la Sainte Croix, tout simplement. C'est pas une question, les anciennes fêtes doubles, ce n'était pas une question de doubler ou non les antiennes, de les chanter en entier ou pas. Bref, pour vous montrer en même temps que ces réalités historiques, parce que malheureusement, il y a toujours de très nombreuses querelles au niveau liturgique et ces querelles, souvent, dans ces querelles, on prétend arborer l'antiquité, la tradition, etc. C'est pas traditionnel d'avoir supprimé la fête de l'invention de la Sainte Croix le 3 mai. Alors c'est pas traditionnel par rapport à quand ? Par rapport à quoi ? C'est pas traditionnel d'avoir fait une fête double à Rome pour un office hybride mixte, alors que la fête originelle de la Sainte Croix c'était le 14 septembre. En fait, ça veut rien dire du tout. Ce qui est important au niveau liturgique, c'est l'autorité qui va décider du calendrier liturgique. Et donc, si les autorités des églises, puisque là, à cette époque-là, ce sont les églises individuelles, les églises locales, qui vont décider du calendrier liturgique, à ce point même qu'il y a des disputes même par rapport à la solennité des solennités, à la fête de Pâques, n'est-ce pas ? Même Saint Colomban, que nous connaissons bien ici dans notre contrée, a écrit au pape Saint Grégoire à cette époque pour faire valoir son avis sur cette question de la fête de Pâques, puisque les Irlandais ne la célébraient pas le même jour que l'Église romaine. Voilà. Donc, on s'aperçoit que les querelles liturgiques ont toujours plus ou moins existé, et que ce qui nous importe, spécialement pour nous qui n'avons strictement aucune autorité dans l'Église, qui que nous soyons d'ailleurs, fidèles, prêtres ou même évêques, qui n'ont pas de juridiction, pas d'autorité dans l'Église pour régler ces questions. C'est pour cette raison que nous nous en tenons au dernier calendrier et aux dernières lois liturgiques avant donc l'avènement de Paul VI, pour lequel on est absolument certain qu'il n'a pas l'assistance divine et donc qu'il n'est pas pape, au moins formellement. Donc, mes bien chers frères, pour revenir à cette fête de la Sainte Croix, nous voyons un peu les vicissitudes du calendrier liturgique, les ajouts des calendriers liturgiques, parce qu'une église qui aime bien telle ou telle fête va l'ajouter à son calendrier. Et puis, si on peut pas fêter correctement, on va ajouter une deuxième fête. C'est ce qui s'est passé avec la fête du 3 mai. Et puis, on va réformer ce calendrier liturgique au cours des années, tout simplement. Voilà. Pour revenir à cette solennité, mes bien chers frères, cette grande fête liturgique qui a été rehaussée donc par le calendrier de 1960, son niveau de classe est plus important qu'auparavant, même si en même temps on a supprimé la fête du 3 mai pour éviter le doublon. Mais on s'aperçoit que finalement c'est très traditionnel puisque ça nous fait revenir à cette célébration du 4e siècle. Donc vous voyez, on peut s'interroger sur la question du plus traditionnel. Ça veut tout dire et rien dire, ça dépend de la référence à laquelle on sur laquelle on se base. Ce qui nous importe, c'est l'autorité dans l'Église, je le rappelle. Cette fête a donc été à la base, c'était la dédicace de ces basiliques. Et ensuite, vu que on honorait, on exaltait la Sainte Croix, eh bien, c'est devenu la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Pourquoi nous pouvons adorer? Parce que nous parlons d'adoration de la Sainte Croix. Les protestants ou autres, juifs ou musulmans, parce qu'en fait là-dessus ils sont tous sur le même plan de fausse religion, vont dire qu'on ne peut adorer que Dieu seul. Et donc, pourquoi pourrait-on adorer la Sainte Croix? La Sainte Croix n'est pas Dieu. Et même pour ceux qui, protestants, théoriquement les protestants sont censés considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme vrai Dieu, avec le protestantisme rationaliste, on ne sait plus trop hein, en réalité, qui retombe en fait dans l'arianisme, hein, tout simplement, et l'islam se fonde sur ces hérésies, en fait. Donc, cette Sainte Croix, pourquoi nous pouvons l'adorer? Parce que nous pouvons distinguer plusieurs manières d'adorer, plusieurs cultes qu'on va appeler techniquement culte de latrie. Techniquement, mais ce n'est pas un mot qui vous est inconnu, puisque vous connaissez le mot idolatrie. Idolatrie, c'est adorer des idoles, c'est-à-dire des faux dieux. Donc, latrie, ça vient du verbe grec, latrein, qui veut dire adorer, tout simplement. Donc le culte de latrie, c'est le culte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul, effectivement. Outre ce culte d'adoration, vous savez, il y a le culte qu'on appelle le culte de doulia en grec, qui signifie un culte de vénération. Voilà pourquoi on peut honorer les saints, on peut les prier, on peut faire des images des saints, etc. Et on peut prier devant, parce que on ne prétend pas les adorer. On adore que Dieu. On prétend les honorer. Donc, on a chez ces personnes, que ce soit la religion juive, musulmane, ou les protestants et autres hérétiques du même genre, on a une vision de la prière qui est complètement univoque. C'est un seul sens, il n'y a que l'adoration, à part ça, il n'y a rien. Donc, il n'y a que Dieu. Donc, on n'a pas à honorer la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame, d'un culte, pour le coup, qu'on va appeler d'hyper-dulie, n'est-ce pas ? Le culte le plus important d'honneur qu'on puisse rendre, et le culte de Dulie, donc, envers les saints. De même, eh bien, les protestants vont brûler des reliques massivement à la Révolution, vont casser les têtes des saints devant les cathédrales, etc. Hein. Il y a encore de nombreux édifices qui portent les stigmates, non pas des dernières guerres, non pas de la Révolution française, mais de la Révolution protestante. Ne faut pas l'oublier. Et certaines statues, ben, n'ont jamais été restaurées, d'une certaine manière, tant mieux, parce que ça montre en permanence ce qu'a été ce protestantisme qu'on prétend persécuter par l'Église. Ce sont des libres penseurs, gentils, chacun pense ce qu'il veut, sauf que non, c'est pas la réalité. Et on a encore ces témoignages qui nous montrent que ce n'était pas la réalité. Donc, je viens de vous le dire, on peut honorer les saints, on peut honorer leurs images. Ça pourrait apparaître, statue, représentation, ça pourrait apparaître comme de l'idolâtrie, n'est-ce pas ? Je vous parlais il y a très peu de temps, comment les Juifs au pied du Sinaï se sont construits un veau d'or, et pour eux, le veau d'or prétendait représenter Yahvé, le vrai Dieu. Ils ne prétendaient pas adorer un faux dieu égyptien, n'est-ce pas ? Ils prétendaient adorer Yahvé à travers cette représentation. Sauf que, évidemment, étant donné que ça représentait un dieu égyptien, il y a quand même une forte ambiguïté, n'est-ce pas ? D'autant qu'ils avaient validé le commandement de Dieu interdisant toute représentation, tout culte de cette manière. Donc pourquoi nous avons le droit de faire ça? Parce que Dieu s'est incarné. Parce que Dieu s'est fait homme. Et donc, lui-même, d'ailleurs, dans le sanctuaire de Turin, a imprimé son image. Et en imprimant son image, il nous a dit, vous pouvez maintenant faire des images de moi. Lui-même l'a fait. Voilà pourquoi on a ce culte des saintes images, qui n'est pas un culte, et là je fais une nouvelle distinction, la première distinction c'est le culte d'adoration, le culte de vénération, l'atridulie. La deuxième distinction, c'est la distinction entre le culte absolu et le culte relatif. Et c'est très important, et c'est tout à fait compréhensible. Le culte absolu, c'est celui qu'on va rendre à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, directement. Lorsque nous prions personnellement, lorsque on célèbre, on assiste, on participe à la Sainte Messe, etc. Lorsque nous prions le chapelet, nous parlons à Notre-Dame, « Je vous salue Marie », nous lui rendons un culte de d'hyperdulie absolue, directement. Parfois, en même temps, on lui rend un culte relatif, parce qu'en même temps, vous allez prier chez vous devant une image, une représentation de notre Seigneur Jésus-Christ, un crucifix. Vous allez prier devant une représentation de la Sainte Vierge, une statue, une image ou autre, et c'est important même d'en avoir un peu partout dans la maison, n'est-ce pas ? Les crucifix, on en mettait autrefois absolument dans chaque pièce. Il faut se souvenir de cette pratique pour nous rappeler cette réalité. Est-ce que on adore le crucifix ou la Sainte Croix en tant que tel ? Non, on adore notre Seigneur Jésus-Christ. Votre crucifix, si vous priez devant votre crucifix, vous vous mettez à genoux, vous pouvez même faire une génuflexion devant, en marque d'adoration. Pourquoi ? Est-ce que vous adorez un morceau de bois, de plâtre, ou de matériaux plus nobles, éventuellement, mais peu importe, on prend ce qu'on a pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est très beau. Nous, on a plusieurs représentations ici, et j'aime beaucoup les représentations d'art populaire, justement, où on prenait les bouts de bois qu'on avait. Alors parfois c'est une planche, alors notre Seigneur il paraît un peu plat, etc., mais ça montrait comment leur dévotion et comment ils prenaient ce qu'ils avaient pour pouvoir représenter notre Seigneur et l'avoir sous les yeux en permanence et l'honorer en permanence et l'adorer en permanence. Donc ce que nous allons faire, c'est adorer la relique de la Sainte Croix, non pas d'un culte absolu, comme si la Sainte Croix était Dieu, était notre Seigneur, mais d'un culte relatif, c'est-à-dire en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas difficile à comprendre. Vous avez compris, les enfants ont compris. Vous avez compris? Pourquoi les protestants et les autres y comprennent pas? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que ça les arrange d'avoir leur propre religion, leurs propres idées, et parce que au bout d'un moment, on ne veut pas revenir, on ne veut pas se convertir, on est trop dans ses propres erreurs, et malheureusement, derrière toutes ces erreurs, il y a une forme d'orgueil. Tandis que face à cela, on voit en même temps la clarté de la Sainte Église catholique. La doctrine catholique est nette, elle est claire, elle procède par ce genre de distinction. Elle n'est pas tout de suite dans cette contradiction. Bien sûr, cette manière d'exprimer, elle ne date pas du IIIe siècle. Là encore, hein, on pourrait s'attaquer aux théologiens modernistes qui veulent toujours revenir à du flou. Bien sûr, cette distinction entre culte de latrie, de duli, d'hyperduli, entre ce culte absolu, ce culte relatif, on va le trouver exprimé exactement de cette manière qu'à l'époque scolastique, au Moyen-Âge, le Moyen-Âge moyen, je dirais, hein, puisque le Moyen-Âge s'étend sur aussi de très nombreux siècles, donc quand on parle du Moyen-Âge, c'est un concept qui est très très vague. Ce que on dit, c'est que à l'époque et de tout temps, les chrétiens ont honoré les images, les saintes images de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge. On en a des témoignages dans les catacombes, n'est-ce pas, hein, la plus ancienne représentation avec l'étoile de la très Sainte Vierge Marie dans les catacombes. Très belle représentation. C'est le deuxième siècle déjà, n'est-ce pas? Donc, on a ces représentations. Alors, c'était des païens, ces gens-là? Non, c'était des chrétiens, et certainement plus que nous. Ils étaient capables de mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous, on le serait? Hein? Espérons, demandons la grâce, bien sûr, si nous y sommes confrontés. Mais ces personnes honoraient également les saintes reliques. Je vous l'ai démontré, puisque cette année nous avons eu aussi la grâce de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul qui tombait le 29 juin. Je vous ai montré ce culte des saintes reliques et de la sépulture de Saint-Pierre à travers les siècles et dès le premier siècle. Donc on voit qu'il y a cette pratique. Pourquoi la scolastique va nous aider à y voir plus clair en faisant ces distinctions? Mais on avait déjà cette pratique. Et si on avait cette pratique dans l'Église, et si les apôtres, et si les évêques, et si les papes approuvaient ces pratiques, eh bien, c'est que ces pratiques sont bonnes. Si ils approuvaient ces cultes, c'est que ces cultes sont bons. Si on instituait une fête en l'honneur de la très sainte croix et qu'on l'adorait, c'est que on peut adorer la très sainte croix, tout simplement. Non pas d'un culte absolu, mais d'un culte relatif qui renvoie à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pour, je vais finir quand même par un mot un peu plus spirituel. Non seulement il nous faut adorer la Sainte Croix, il nous faut l'aimer, il faut accepter dans cette dévotion, on va dire, envers la Sainte Croix, va se traduire chaque jour en réalité, parce que chaque jour, notre Seigneur Jésus-Christ, à travers ce qu'il permet par sa divine providence ou ce qu'il veut directement pour nous, il se trouve que chaque jour, nous avons de nombreuses croix à porter. Eh bien, cette fête de la Sainte Croix nous rappelle que la croix finit par être l'instrument de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la croix, c'est l'instrument de notre propre salut. Notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'on l'adore, la Sainte Croix, parce que la Sainte Croix, eh bien, elle est indissociable de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que notre Seigneur Jésus-Christ est indissociable de la Sainte Croix. Là encore, pourquoi aujourd'hui on a un art qui est dévoyé, qui est moche, etc. Parce que on ne veut plus représenter directement la réalité de la croix, la réalité de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, de la gloire qu'il y a derrière. Donc on fait des trucs vagues et qui ne montrent plus cette réalité. Donc, pourquoi ? Parce que notre Seigneur veut partager avec nous cette croix. Donc, tous les événements, les inconvénients, les épreuves, etc. de chaque jour, il faut les regarder avec foi. C'est ça que nous devons demander particulièrement aujourd'hui. Non seulement notre salut, les grâces pour notre salut qui sont méritées par la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également participer à ce salut chaque jour, quotidiennement, en portant les croix qui nous sont envoyées, parce qu'en réalité, c'est un peu de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous donne chaque jour, et parce que tout se fait par la croix et rien ne se fait sans la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.